liberté, égalité, révolution et république. Égalité, fraternité, c'est notre histoire, c'est toute une éthique. On nous convoite et nos voix vont au con. On les consacre que leur sacré con.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Antonia.
Parce que la parole n'est donnée qu'à ceux qui la prennent, ici les citoyennes et citoyens, sans cesse, pour faire entendre leurs idées, leurs projets, leurs revendications pour une société plus juste, plus solidaire. Vous voulez réagir? Voici notre mail. Parole des citoyens tout attaché au singulier, @fréquence7.net. Aujourd'hui, le titre de notre émission, Debout les forçats de la terre. Dans la première partie, Claude et Edwige nous font un point sur la situation nationale et locale sur la santé. Ensuite, elles nous feront part de la dernière déclaration de l'Association des sous-sagers de l'hôpital d'Aubenas du 6 février. Dans la deuxième partie, nous reviendrons sur la réforme des retraites, en quoi les futurs retraités sont impactés par la dégradation de leur santé. Léo revient sur les actions passées à venir. Nous finirons notre émission par notre rubrique « La parenthèse poétique ». Nous laissons donc la parole à Claude et Yadvige.
Bien, donc Marie est absente, elle se bat avec son calcul de retraite, donc nous allons nous reposer sur le travail qu'elle a fait à la maison. Santé, émission du 23 février 2023. Un cinquième de la population vit dans des déserts médicaux. 21 000 lits fermés depuis 2017. Plus de 15 000 postes vacants dans les hôpitaux. On n'a toujours pas réintégré les soignants non vaccinés. 8 500 étudiants formés en médecine par an, alors qu'il en faudrait au minimum 12 000. Voilà le désastre des services de la santé en France. Hôpital, pronostic vital engagé. On nous pique encore des services, ça suffit.
Alors, Claude, je vois que, justement, tu as besoin des services de santé qui fonctionnent.
Oh, je pourrais en parler, oui.
Alors, un rapport de la commission d'enquête parlementaire au Sénat du 29 mars 2022, dans lequel on peut lire « Fluidifier le parcours du patient à l'hôpital et poursuivre le développement des alternatives à l'hospitalisation complète » ou encore « C'est sur l'ensemble de ce parcours qu'il faut alléger la charge pesant sur l'hôpital pour améliorer les conditions de travail des soignants, mais surtout pour assurer une meilleure qualité de prise en charge pour les patients. Alors, qu'en est-il réellement, Claude ?
Faudrait-il encore que l'on puisse recruter du personnel, que l'on rouvre des lits qui ont été fermés ? Enfin, revaloriser les salaires du personnel hospitalier serait judicieux. Ne vous y trompez pas, ce genre de phrase tend en fait vers la privatisation lente mais inexorable des services publics de la santé. En réalité, nous avons des fermetures de services à l'appel, des postes vacants, des services saturés tels que les urgences. Tiens d'ailleurs, depuis qu'un urgentiste est ministre de la Santé, les fermetures de services d'urgence s'accélèrent. Aurait-il été placé ce poste dans le seul but ? Pourquoi est-ce que l'on a créé une médecine ambulatoire ? Vous savez, ce service où le patient séjourne à l'hôpital pour une durée inférieure à 12 heures. Ce qu'il faut surtout savoir, c'est que par exemple, la chirurgie ambulatoire mobilise moins de ressources, c'est donc un potentiel d'économie important. Ce système a été inscrit dans le contrat entre les ARS et l'État dès 2012. Le plan de départ avait pour objectif de passer à 6 interventions sur 10 d'ici 2020. Dans un même laps de temps, l'ambition de l'ARS et du gouvernement était très forte pour développer l'hospitalisation à domicile. De plus en plus, le privé prend le pas sur le public, ceci dans tous les domaines, mais celui de la santé est visé tout particulièrement. Mais c'est difficile, les gens y tiennent à leur système de santé. Alors une méthode douce, infaillible, tout doucement, mais sûrement, et ce n'est pas d'aujourd'hui que tout a commencé. En 2003, on en parlait déjà, l'hôpital va mal. Puis, un plan en 2007. Première étape, faire coexister pacifiquement public et privé. Puis on glisse doucement vers la deuxième étape en donnant la partie non rentable au public et au privé les actes les plus juteux. Le glissement du public vers le privé devient progressif, jusqu'à la troisième étape qui est la privatisation totale.
Mais alors il faut le rappeler tout de même. Que ce soit l'hôpital public ou l'hôpital privé, tous les établissements sont financés par des fonds issus des cotisations de la sécurité sociale et de l'assurance maladie, cotisations salariales et patronales, ainsi que de la CSG. Alors, pour le financement des retraites et de la santé, est-ce que c'est le même combat ?
Dans son billet d'humeur, Christophe Prudhomme, médecin SAMU 93 et porte-parole des urgentistes, explique « L'objectif du gouvernement est de basculer vers le secteur marchand et financier tout ce qui peut être rentabilisé. Tout est fait pour imposer l'alternative d'un secteur privé. La dernière escroquerie dans le domaine est le plan d'investissement du Ségur de la santé avec l'annonce d'une somme mirifique de 19 milliards sans jamais préciser que son déblocage sera étalé sur 10 ans. Rien que pour les CHU, la dette cumulée est de 13,5 milliards, ce qui va engendrer des fermetures de lits et encore des activités qui vont partir au privé lucratif. » Plus particulièrement sur Aubenas, et il y a des choses à dire. L'hôpital d'Aubenas est lui aussi pris dans la tourmente. Des services qui ferment ou ont fermé récemment, le service des urgences dans le collimateur, des manques de personnel, problèmes de recrutement des médecins, un médecin arrive, un autre part. Difficulté de recrutement très marquée en Ardèche. Deux médecins du service gastro-entérologie qui a eu pour effet la fermeture du service.
Alors, des difficultés du SMUR, du centre hospitalier d'Aubenas, aussi bien sur l'accueil des urgences que sur son SMUR. Le SMUR doit fonctionner 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il est composé de 4 à 5 médecins et de 4 à 5 infirmiers. Le SMUR primaire assure des urgences vitales et le SMUR secondaire assure le transfert de patients entre les hôpitaux. Au vu des grosses difficultés du SMUR d'Aubenas, le SMUR de Privas, qui n'a qu'un seul SMUR primaire, vient souvent en renfort à celui d'Aubenas. Total, des patients qui risquent de ne plus être pris en charge rapidement, que ce soit sur Privas ou sur Aubenas.
Au niveau national, autre chose qui me tient à cœur sur la santé. Le gouvernement prétend que l'enfance est sa priorité, pourtant une réalité catastrophique des services de soins pour les enfants, totalement saturés, particulièrement en pédopsychiatrie. Des prises en charge trop tardives, parfois il faut attendre des mois, des années avant d'être pris en charge. Des institutions médico-sociales en voie de disparition, de ce fait, des maltraitances institutionnelles qui sont faites aux enfants et qui perdurent. Des services de l'enfance sans éducateurs amenant des situations complètement folles de maintien à domicile d'enfants maltraités par leur famille.
Et maintenant, Claude, tu vas nous parler de l'association qui s'occupe des usagers de l'hôpital d'Aubenas, c'est
oui,
ça ?
Donc l'association a fait sa déclaration le 6 février 2023. Je vais en lire quelques... Je ne vais pas tout faire, on n'aura pas le temps. Donc le titre, « Plus que jamais, mettons l'hôpital d'Aubenas sous protection ». Dans un communiqué de presse annonçant la création du nouveau groupement hospitalier du territoire Drôme-Ardèche, ses promoteurs assurent qu'il sauvera l'hospitalisation de proximité dans nos deux départements. Ne nous permettons d'en douter. D'abord parce que cette nouvelle structure a été préparée dans le plus grand secret, sans consultation des acteurs de terrain et notamment des associations d'usagers et leurs représentants. Ensuite, parce que le GHT, précédent avec Montélimar comme site pilote, avait été présenté dans les mêmes conditions, n'a résolu aucun problème auquel sont confrontés nos établissements hospitaliers d'Ardèche Sud. Les recrutements de médecins ont privilégié le site de Montélimar en développant une concurrence entre sites. Les services ont été fragilisés. Certains services sont fermés par manque de personnel médical. Exemple, la gastro-entérologie. L'accès aux soins de la population s'est dégradé. La création de ce nouveau GHT éloignera encore plus les services hospitaliers du territoire ardéchois. Nous en voulons pour preuve la récente décision du conseil de surveillance de l'hôpital Rocher-Largentière qui a décidé, contre l'avis de représentants d'usagers et de quelques élus, de saborder son service de médecine et son service de soins de suite et de réadaptation. Cette décision a été prise mi-décembre sans concertation préalable. Dans le même temps, l'établissement de la Condamine à Tueil, propriété Corian, devait être repris par l'hôpital d'Aubenas, mais depuis juin 2022, date à laquelle l'Agence régionale de santé a pris officiellement cette décision, rien n'a été fait pour organiser cette reprise. Le personnel d'établissement, les habitants du secteur sont inquiets. Donc voilà, en fait, c'est vrai que je reprends la parole. J'estime que l'hôpital d'Aubenas est devenu une coquille vide. Pour l'expérimenter, j'essaie de me faire soigner depuis un mois j'ai réussi à trouver un pneumologue à Montélimar, un scanner à Montélimar, et attendez, c'est dans un établissement qui a été racheté par le fonds de pension Ramsay. J'en suis malade, mais je suis obligée d'y passer. Voilà.
Merci Claude. Donc nous passons à la deuxième partie, sous la réforme des retraites et comment les nouveaux retraités sont impactés par la dégradation de leur santé. Nous laissons donc la parole à Edbige.
Alors ben oui, moi je voulais évidemment reprendre ce sujet des retraites, de la réforme, et donc juste un petit point. Déjà en 1963, pour faire un petit peu une marche arrière, donc l'âge de départ en retraite était à 63,8 ans. Donc, quelque part, on se rapproche de ce qui nous est proposé aujourd'hui, en 2022. Quand même, il faut se souvenir qu'en 1983, l'âge d'ouverture des droits, il était à 60 ans. En 2008, c'était 61 ans. En 2011, 62 ans. Et là, si on ne fait rien, on nous impose tout simplement 64 ans. Donc, on reviendrait tout bêtement en 1963, quoi. Aucun progrès social. C'est complètement aberrant. Donc à présent, je vais vous parler des personnes qui présentent des incapacités, c'est-à-dire qui sont fortement limitées dans leurs activités quotidiennes, comment elles se préparent à passer à la retraite. Donc après 50 ans, et avant leur départ à la retraite, ces personnes-là qui sont limitées partent plus tard que les personnes qui ne sont pas limitées par leurs activités.
Comment cela se fait-il ?
Alors en fait, les personnes qui ont des incapacités, donc elles sont souvent obligées de s'arrêter de travailler, donc elles ont des arrêts maladie et ça occasionne évidemment le fait qu'elles ne cotisent pas suffisamment de trimestres et d'annuités. Donc l'âge d'ouverture des droits est décalé. Après 50 ans, les personnes présentant des incapacités passent ainsi 8 années et demie sans emploi ni retraite. Alors qu'une personne les personnes qui ont des incapacités passent 8 années et demie sans emploi ni retraite, alors qu'une personne sans limitation passe en moyenne 1,8 année avant de partir à la retraite.
Pourquoi nous ne sommes pas tous égaux face au travail ?
L'inégalité face à la santé et face à la mort est une évidence. Oui, nous ne sommes pas tous égaux face au travail. La pénibilité n'est pas un détail. En partant à la retraite au même âge, les travailleurs qui accomplissent des tâches pénibles financent en réalité les retraites des catégories plus favorisées, puisqu'ils meurent plus jeunes. Faire travailler plus longtemps les gens sur les emplois pénibles revient en fait à financer les retraites des catégories les plus favorisées. Encore une fois, ce n'est pas une surprise.
10% des plus riches vivent 13 ans de plus que les plus pauvres. Alors si on accepte cette réforme à 64 ans, c'est vraiment qu'on n'a rien compris.
Merci les filles. Alors, pour les actions passées et à venir, nous laissons la parole à Léo.
Alors, pour faire un retour déjà sur les dernières mobilisations, le 16 février a été une grosse mobilisation à Aubenas. On était 2500, ce qui est un très bon chiffre pour le bassin sur un samedi, sachant qu'il y avait déjà eu une grève dans la même semaine. Pour revenir quand même sur Aubenas, il faut le dire, on est une des villes de France où on a connu le plus haut taux de participation par rapport au nombre d'habitants. Le 31, on était plus de 10 000 pour une ville de 12 000 habitants. C'est historique, c'est l'histoire d'Aubenas qu'on écrit. On n'avait jamais connu une si forte mobilisation, ni en 68, ni en 36, ni à la libération à Aubenas. Voilà. Alors, pour la continuité de la bataille et les prochaines dates de mobilisation, il y a un appel à la grève dès le 7 mars. Avec un rendez-vous à 14h à Ponson, l'intersyndicale y appelle. Il y aura sûrement des piquets de grève sur l'ensemble du bassin, sur les boîtes qui auront la force de le faire, où il y aura des débrayages et des piquets devant. On verra dans la zone industrielle, et l'intersyndicale du bassin d'Aubenas reste à disposition des travailleurs pour aller renforcer les piquets de grève. Le 8 mars, l'intersyndicale du bassin d'Aubenas appelle à rejoindre la mobilisation et la grève féministe à l'initiative du collectif féministe des femmes du 8 mars d'Aubenas. Le rendez-vous, c'est 15h40 à l'Agora. Voilà, et après, on continue. C'est ça l'objectif. Le 7, après la manif, tout le monde est invité à une AG interpro à 18h, 17h30. Le lieu sera confirmé dans les jours qui viennent, dès qu'on aura la validation de la salle. Voilà. Et pour la suite, la question, c'est voilà, est-ce que maintenant, tout le monde est prêt à faire 3 jours de grève ou bosser 3 ans de plus ? La question, elle est d'une longue peine. À 60 ans, 3 ans de plus pour les ouvriers, pour les gens qui ont des métiers difficiles, pour les personnes qui ont des carrières hachées, qui vont devoir aller charbonner encore plus longtemps. C'est une longue peine. C'est leur santé. C'est la mort qui arrive pour la retraite dès les premières années de retraite. Voilà ce qui se joue. Donc maintenant, la question, c'est où on y va tous en même temps jusqu'à gagner et on fait reculer Macron, Dussopt et son gouvernement. Où on perd. La question, c'est la reconductibilité de la grève et l'extension du mouvement, la mise à l'arrêt du pays et de tous les secteurs de l'économie jusqu'à la victoire. Voilà.
Bien dit, Léo. Il en faut encore 10 000, 100 000 comme toi, je pense.
Et pour refaire un rappel, la retraite pour la CGT, c'est 37 annuités et demie de cotisation à 60 ans, à taux plein, calculé sur les 6 derniers mois de salaire et avant pour les métiers difficiles.
Et oui, Léo, tu es revenu sur le travail haché. C'est vrai que bon, c'est mon cas, hein, parce qu'en étant mère des familles, c'est vrai que je n'ai pas cotisé. Donc normalement, d'après les calculs, je dois travailler jusqu'à l'âge des 67 ans. Voilà, pour les professions libérales. Bon, donc nous arrivons au terme de notre émission et laissons la parole à Edwige pour la parenthèse poétique.
Est-ce parler de la solidarité et des caisses de grève. Parce que pour permettre aux gens qui ont des petits salaires de faire grève, il faut qu'on les aide.
Clairement, financièrement, la question, elle se pose. Et puis, pour aussi mettre en exergue un exemple, on en a des grèves victorieuses pas loin de chez nous. La semaine dernière, Bostik a pris 8 jours de grève, 100 euros d'augmentation sur la fiche de paye à la fin du mois. Voilà comment on gagne, comment on fait grève dans les boîtes pour du salaire. La question des caisses de grève, il y a une caisse de grève intersyndicale mise en place sur le bassin d'Aubenas, accessible à tous, prioritairement pour les salariés précaires qui sont dans des entreprises où il n'y a pas de syndicat, sur des mi-temps. Voilà, vous pouvez faire des demandes à la CGT Aubenas, venir les mardis ou les mercredis à la maison des syndicats. Il y a des formulaires à disposition sur les voitures, sur les manifs. On indemnise en priorité les salaires faibles sur présentation de fiches de paye et des jours de grève. Et en priorité, les mi-temps et les salaires en dessous de 1700 euros bruts.
Okay,
voilà. À hauteur de 40 euros minimum, maximum par jour.
Merci Léo. Donc tu reprends la parole Edwige, je voulais nous parler donc avant la parenthèse poétique, donc tu vas nous donner des infos sur la nouvelle commission santé sur Aubenas.
Oui voilà, il y a une nouvelle commission qui s'est formée, la commission santé de l'Assemblée citoyenne NUPES Sud 07. Et donc sa prochaine réunion aura lieu à la salle des Oliviers le lundi 13 mars à 18h. À présent, je vais vous faire ma petite parenthèse poétique, qui sera pas si poétique que ça, mais bien dans l'air du temps, et qui concerne la téléconsultation. Donc la téléconsultation, pour ceux qui ne le savent pas, c'est de voir un médecin à travers un écran, et qui va pouvoir, comme ça, à travers l'écran, nous dire de quoi on souffre. Donc voilà mon petit texte. Téléconsultez si vous êtes malade. Téléconsultez si vous êtes souffrant. Téléconsultez pour masquer le manque de médecins. Téléconsultez pour sauver le système de santé. Mais si votre travail vous fait souffrir, même si vous n'avez pas de médecin traitant, surtout ne téléconsultez pas. On ne vous remboursera pas. Il n'y a pas d'arrêt maladie virtuel. Seul l'arrêt de notre système de santé est vraiment réel. Alors, continuez de souffrir au travail. Remplacez juste le mot pénibilité par usure au travail et tout ira bien. Et contrairement à ce que chantait Henri Salvador en 1965, le travail c'est la santé. Ne rien faire, c'est la conserver. Il faut entendre de la part du gouvernement une chanson bien différente qui dit « Conservez votre travail, mais surtout, ne faites rien pour la santé. »
Merci Edwige.
Merci. Juste, on a 2 minutes encore.
Oui.
Simplement, L'Assemblée nationale est devenue un conseil d'administration des sociétés du CAC 40. Ils en croquent tous, hein, à 1,5 million les actions, etc. Donc on comprend pourquoi ils ne veulent pas taxer les super-profits. Mais ce qui est absolument lamentable, qu'on soit pour ou contre, à une voix près, il a été refusé aux étudiants de manger pour 1 euro par jour, alors que les files d'attente n'arrêtent pas. D'être dans les grandes villes, et je trouve que c'est vraiment une honte. J'ai vraiment honte de notre société. Voilà.
Merci Claude. Donc prochaine émission dans 15 jours, nous vous rappelons le mail pour vos réactions, infos, suggestions. Parole des citoyens tout attaché au singulier @fréquence7.net. Merci.
Merci, à très bientôt.
À bientôt.
Liberté, égalité, révolution et république. Égalité, fraternité, c'est notre histoire, c'est toute une éthique. On nous convoite et nos voix vont au con, on les consacre que leur sacré compte.